Chapter 2. A Strange Tattoo. Ma mère sortit aussitôt son téléphone portable et composa le numéro de mon père. Mais quand elle commença à parler, je compris qu'elle s'adressait à la messagerie.
Oui, Lucas, c'est moi. Écoute, on est bien arrivé à l'hôtel avec Liv, mais ils nous disent qu'ils ne t'ont pas vu depuis le petit déjeuner. Appelle-moi dès que tu pourras. On va défaire les valises en t'attendant. Bisous.
Personnellement, je n'étais pas très inquiète. Ça faisait 2 ans que mon père travaillait à la mise en place de son nouveau spectacle. Et à 5 jours de la première, il devait être en plein dans les répétitions. « On n'a qu'à aller au théâtre » suggérai-je. « Il a dû oublier l'heure. » Le porteur nous aida à monter les valises dans la suite réservée pour mon père. C'était la grande classe. 2 chambres, avec chacune sa salle de bain, et qui donnait sur un vaste salon meublé de canapés, d'un bar et d'une immense télévision à écran plat.
« Your husband ordered a meal, »
dit le porteur à ma mère.
« Shall I tell catering to bring it up ?»«
No, not yet. We'll try and find him first, » répondit ma mère. « But thank you. »«
Qu'est-ce qu'il a dit ?» demandai-je dès que le jeune homme eut quitté la pièce. C'était frustrant de ne pas comprendre, et je me dis qu'il allait falloir que je craque vite le code si je ne voulais pas dépendre de ma mère.
« Ton père a commandé un repas, »
répondit-elle d'une voix tendue.
« Ce qui veut dire qu'il avait l'intention d'être là. Tu as sans doute raison, il n'a pas dû voir passer l'heure. On va aller au théâtre, c'est à 2 pas. »
Nous prîmes 5 minutes pour ranger nos affaires, puis nous partîmes à pied pour rejoindre le théâtre où aurait lieu le spectacle. Il faisait doux. L'immense ville de Londres ronronnait comme une gigantesque ruche futuriste dans laquelle les abeilles auraient maîtrisé le moteur à combustion et l'électricité. Quelque part, au centre de la ruche, il y avait la reine dans son palais de Buckingham. Ma mère m'avait promis qu'on irait voir le palais, même si on ne pouvait pas le visiter avant le mois d'août. Et aussi les bijoux de la reine exposés à la tour de Londres. Ce n'était pas la plus grande collection de bijoux officielle au monde. D'après ce que j'avais vu sur Internet, c'était l'Iran qui a emporté le morceau. Mais c'était assez impressionnant. Aussi précieux que la gelée royale pour la reine des abeilles, me dis-je. Nous marchâmes pendant 10 minutes avant de repérer de l'autre côté du carrefour, le London Palladium, avec, à côté de l'entrée, la même grande affiche de papa que nous avions vue pendant le trajet en taxi, et au-dessus des portes, les mots « The Butterfly Enchantment ». Le théâtre était fermé pendant les répétitions, mais une petite porte marquée « Tickets » donnait accès à la caisse. Ma mère se dirigea vers la jeune femme en uniforme noir et or qui lisait un roman de poche en attendant les clients.
« Good evening, »
dit maman alors que la jeune femme levait les yeux.
« I'm Melanie Bezian, Lucas' wife, and this is our daughter, Lilith. Is my husband still here ?»
La jeune femme sembla surprise.
« I don't think he is, Mrs. Bezian, but I'll ask Mr. Robbins, the manager, if you'll just wait for a moment. »
Elle décrocha aussitôt le téléphone posé sur le bureau à côté d'elle et composa un numéro à 3 chiffres. 2, 4, 4. Je le mémorisais. C'est un peu idiot, je sais, mais depuis que je suis toute petite, j'essaie de retenir le plus de chiffres possible. Les numéros de téléphone, les codes d'interphone, d'ordinateur. Les chiffres, c'est bien plus mon truc que les langues étrangères. À peine 2 minutes plus tard, un grand homme blond, vêtu d'un costume clair, se dirigea vers nous, la main tendue.
« Mrs. Bezian, so pleased to meet you, »
dit-il à ma mère en lui serrant la main.
« And you must be Lilith. »
Je souris pour lui indiquer que oui, c'était bien moi.
« Welcome to London, both of you. I'm Peter Robbins, the theatre manager. What can I do for you ?»«
What ? Quoi ou que ?» Que pouvait-il faire pour nous, sans doute. Je commençais à m'habituer à cette histoire de code.
« We're looking for Lucas, »
dit ma mère. « Looking for. » Ça me disait quelque chose. « To look » signifiait « regarder », je le savais. Mais « to look for », comme beaucoup de verbes anglais auxquels on rajoutait une particule, avait un autre sens que la somme des 2 mots « ou », ici, « regarder pour ». Il me semblait avoir vu un film avec « looking for » dans le titre, ce qui ne m'aidait pas des masses pour traduire ce mot. Mais maman avait parlé de Lucas, et donc, logiquement, vu qu'on cherchait mon père, ça voulait dire « chercher ». Je posais l'hypothèse « looking for » égale « chercher ».
« Well, that makes 2 of us, »
dit Peter Robbins.
He was here this morning for rehearsal, but he didn't come back after lunch. I've left him at least 4 voicemail messages. I thought he was with you.
Je ne compris pas grand-chose à l'échange, à part les mots morning, matin, rehearsal, répétition, et lunch, que je savais vouloir dire déjeuner. Mais vu l'expression du directeur et celle de ma mère, je devinais que mon père n'était pas au théâtre, et sans doute pas depuis la pause déjeuner, suite à la répétition du matin.
I don't understand,
était en train de dire ma mère.
It ordered a meal for us at the hotel, so he obviously intended to be there. Was he normal this morning?
This morning, he was his normal self,
said Peter Rubens.
The rehearsal went well. He was perfectly happy. But now you mention it, as he was coming out of the theatre at lunchtime, somebody was waiting for him. When he saw the person, he said he'd be back after lunch. I assumed it was a friend.
Friend, je connaissais. Ami. Mon père avait rencontré un ami.
Did you see the person?
Asked my mother. Peter Rubens haussa les épaules et soupira comme s'il essayait de retrouver un souvenir très flou.
It was a man,
dit-il enfin.
Quite tall, I think. As tall as Lucas. And he wore dark clothes. A suit, probably. A black suit. And he had blonde hair. I think he had a ponytail. I really thought he was a friend.
Ami ou pas ami? En voyant l'homme à la queue de cheval, Peter Rubens avait vraiment pensé qu'il s'agissait d'un ami.
Don't you think we should go to the police?
Asked my mother. Là, c'était facile. Il y a des mots qui sont presque exactement les mêmes en anglais et en français, même dans leur prononciation. Et police en fait partie. Fallait-il avertir la police? Le directeur du théâtre secoua lentement la tête.
I wouldn't just yet. Maybe this man is an old friend and Lucas hasn't realized how late it is. You know how we men are with old friends.
Un vieil ami, donc. En tout cas, le directeur semblait penché pour cette explication. Un vieil ami qui était responsable du fait que mon père n'avait pas vu l'heure. Late, me semblait-il, signifiait en retard.
But why hasn't he phoned?
Insista ma mère.
I don't know. Maybe his phone battery is dead,
suggéra le directeur.
Honestly, I think you should go back to the hotel and wait.
Je compris phone et battery. Et en déduisis que Peter Rubens supposait que la batterie du téléphone de mon père était à plat. Go back voulait dire retourner et wait, attendre. Il voulait qu'on retourne à l'hôtel pour l'attendre.
Is there anything else you remember about this man you met?
Demanda ma mère sans bouger. Est-ce qu'il se souvenait d'autre chose? Le directeur commença à secouer la tête, puis s'arrêta.
Yes, there is. He had a bat tattooed on the left side of his neck, just under his ear. I noticed it because I found it rather strange.
Bat. Bat de baseball? A baseball bat? Demandai-je tout en voyant difficilement à quoi ressemblerait un tatouage pareil.
No, a bat that can fly,
said Peter Rubens. What's a bat that can fly? I asked.
Une chauve-souris,
chuchota ma mère.
Un vampire.
Je tournai la tête vers elle. Elle était blanche comme un linge.